Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un classique de l'histoire de la soul music, le fameux Move On Up du guitariste, chanteur et producteur américain Curtis Mayfield, dont on redécouvre les œuvres ces jours-ci à la faveur de moult rééditions, dont un coffret intitulé Keep On Keeping On, paru chez Warner et qui regroupe les quatre premiers albums solo de cet activiste trop peu célébré. Pour évoquer sa destinée, nous avons convié un observateur éclairé, Sébastien Danchin, soyez le bienvenu.
Eh bien, c'est un plaisir, comme toujours, de retrouver des auditeurs qui sont disséminés à travers la planète.
Vous êtes historien, producteur de disques, programmateur de festivals, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la culture africaine-américaine. On vous doit l'encyclopédie du Rhythm and Blues et de la Soul, des portraits de B.B. King, Elvis Presley, Aretha Franklin ou Billie Holiday, pour ne citer que ces quelques exemples. Mais vous avez aussi eu la chance de connaître Curtis Mayfield lorsque vous séjourniez aux États-Unis. Comment vous êtes-vous rencontré ?
Eh bien, je suis parti aux États-Unis dans le cadre de mes études, puisque je faisais des études d'ethnosociologie et que j'allais m'intégrer du mieux que je le pouvais au milieu afro-américain de Chicago, puisque j'avais pris comme sujet d'étude un garçon qui s'appelait Earl Hooker et qui était un cousin germain de Johnny Hooker, qui était un personnage peu connu du grand public, mais très connu du monde du blues à Chicago, qui était décédé quelques années plus tôt. Il est mort en 1970. Et ce personnage me semblait très emblématique de la culture du blues. Et donc, je l'ai pris, lui, comme porte d'entrée. Ça a été le prisme à travers lequel j'ai pu étudier ce milieu du blues à Chicago. Je vivais donc dans le South Side de Chicago, qui est un des grands ghettos de la Windy City. Et puis, comme tout bon ethnologue a une couverture, la mienne, c'est que j'étais musicien et j'étais guitariste. Et je travaillais au sein d'un certain nombre d'ensembles et avec un certain nombre d'artistes. Et j'ai même réalisé des enregistrements. Or, il se trouve que les enregistrements à l'époque que j'ai réalisés ont été faits chez Curtom, qui était le studio de Curtis Mayfield. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Curtis Mayfield, dont je savais, moi, en bon amateur de blues, je connaissais mieux le blues que la soul. Mais je dois dire que je savais tout de même qui était Curtis Mayfield. Même à 20 ans, j'avais quand même une idée de qui était Curtis Mayfield. Mais je ne pense pas avoir eu toute la notion de la richesse du personnage et de son intérêt historique à cette époque-là. Je ne pense pas avoir eu vraiment conscience de la chance que j'avais de rencontrer un personnage comme celui-là. J'en ai toujours éprouvé une sorte de complexe par la suite, parce que je me suis dit quand même, je me suis trouvé face à lui, je ne lui ai pas posé des questions évidentes que j'aimerais lui poser aujourd'hui quand c'est plus possible. Et surtout, mon complexe vient aussi d'autre chose, c'est que c'est lui qui m'interrogeait. Curieusement, il me posait énormément de questions parce qu'il se demandait ce que venait faire ce petit Français à l'intérieur du ghetto du South Side de Chicago, pourquoi j'étais là, pour quelles raisons. Donc je lui avais expliqué, ça l'avait intéressé beaucoup, et il me posait posait toutes sortes de questions sur la France, sur la perception de l'Amérique noire en France, etc. C'était un garçon extrêmement curieux, d'une grande intelligence et d'une grande sensibilité, et surtout extrêmement ouvert aux autres. Et c'est autant de caractéristiques, je crois, qu'on peut donner à sa musique et à son œuvre en général.
Est-ce que l'homme que vous avez pu observer au quotidien était différent de l'artiste engagé que l'on a connu?
Non, justement pas. Et ça, c'est un fait rare. Vous savez que normalement, les individus, c'est trois choses. C'est la sphère familiale, sociale et professionnelle. On a une philosophie de vie, et quand on arrive à avoir la même philosophie de vie et à la pratiquer dans sa famille, auprès de ses amis et dans son boulot, c'est qu'on a éteint le nirvana et l'état de bonheur suprême et d'accord avec soi-même. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je crois que nous errons à un moment ou à un autre, souvent dans une ou l'autre de ces catégories. Lui, pour ce que j'ai pu en voir, c'est un homme qui était extrêmement cohérent avec ce qu'il montrait, ce qu'il disait dans sa musique. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui était intéressé par l'argent, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui était fermé aux autres, comme je le disais un instant, c'est même tout l'inverse. Non, je crois que c'était quelqu'un de foncièrement éclairé, que c'était un personnage rare, et c'est d'ailleurs extraordinaire. Vous dites qu'il y a ce beau coffret qui vient de sortir, et c'est vrai que c'est un coffret que je conseille à tout le monde, parce qu'on y trouve des enregistrements magnifiques, mais je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui encore, on ait besoin de faire découvrir Curtis Mayfield. Et vous me disiez vous-même que depuis 17 ans que cette émission existe, jamais Curtis Mayfield n'avait été traité. C'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que ce personnage-là est passé à travers les gouttes? Je crois d'abord que Curtis Mayfield, ce sont des textes. C'est beaucoup une musique, c'est vrai, mais ce sont beaucoup des textes d'une grande fragilité, d'une grande précision, d'une grande sensibilité, et que qui n'est pas anglophone ne peut pas les percevoir dans toutes leurs dimensions. Et vous savez qu'en France, nous ne sommes pas le pays le plus anglophone du monde. Et des amateurs de musique afro-américaine sont passés à côté de Curtis Mayfield parce qu'ils ne pratiquent pas l'anglais, qu'ils n'ont pas la possibilité d'entrer dans ces textes. Quand il enregistre « People Get Ready », c'est un texte absolument magnifique, qui est un texte extrêmement dans l'esprit, qui est extrêmement religieux. On est très proche de ce que font les Staple Singers, par exemple. C'est-à-dire, on utilise tout le vocabulaire, je dirais, du christianisme éclairé de cette époque-là. Et donc, dans ses textes, il est toujours à la fois dans la revendication et dans la virulence, mais sans jamais l'agressivité. Il a un texte qui s'appelle « In My Country ».« My Country », c'est ce pays, c'est aussi moi qui l'ai construit. J'y ai droit autant que vous, et je suis ici, chez moi.
Vous parliez de « People Get Ready », vous devriez faire de la radio, Sébastien Danchin.
Against the kingdom's throne.
People Get Ready, Curtis Mayfield et les Impressions en 1965 sur l'album du même nom. Est-ce qu'en quittant les Impressions en 1970, Curtis Mayfield va perdre de sa verve citoyenne et activiste, Sébastien Danchin ?
Alors, je pense que c'est vrai, mais c'est un peu plus tardif. Il faut attendre le milieu des années 70 et ça a été flagrant dans les années 80, c'est-à-dire toute la période Reagan. On a vu l'Amérique noire qui était l'Amérique des ghettos, où tous les Afro-Américains de toutes les classes sociales vivaient ensemble. Au moment où il y a un certain progrès social, on voit les classes moyennes et les classes supérieures quitter le ghetto et progressivement, il ne reste que la lie de la communauté, des gens qui n'ont pas reçu d'éducation, des gens qui vivent de trafic illicite faute de pouvoir avoir du boulot, etc. Et donc à ce moment-là, le discours radical a laissé la place à un certain hédonisme. Notamment, ça a été l'émergence du disco. On n'était plus dans une logique de revendication collective, mais beaucoup plus de revendication d'un plaisir individuel.
Quel était l'écho justement de la revendication au début des années 70 ? Est-ce que le mouvement Blaxploitation, par exemple, était cet écho-là ?
Le mouvement Blaxploitation, il est extrêmement... C'est-à-dire, ce sont ces films noirs avec des noirs qui sont des films qui sont révolutionnaires dans la mesure où, pour la première fois, sur grand écran aux États-Unis, on montre l'Amérique noire telle qu'elle est et pas du tout de manière soit idéalisée, soit paternaliste, etc. C'est notamment le film Sweet Sweet Back de Melvin Van Peebles, diffusé dans quelques salles de cinéma au départ, avec seulement quelques dizaines de spectateurs. Et puis, il a vu qu'aux séances suivantes, il y avait de plus en plus de gens. Et en fait, le bouche à oreille a fonctionné. La Blaxploitation, elle est née de ça. Et très rapidement, elle a été récupérée par Hollywood. Hollywood qui avait de plus en plus de concurrence déloyale, je dirais, de la part de la télévision. La télévision diffusait beaucoup de cinéma, beaucoup de films, beaucoup d'anciens films. Hollywood était à la limite de la faillite. Et cette nouvelle mode de films qui s'adressait à un public adolescent, de classes généralement inférieures, qui n'avaient pas de télévision chez eux ou peu, beaucoup de gens des quartiers pauvres, ce cinéma-là a permis de sauver Hollywood en l'espace de quelques années. Pour la première fois, on voyait l'Amérique noire au cinéma, mais en même temps, se sont créés de nouveaux stéréotypes. C'est devenu une formule, et cette formule, elle était non seulement ambiguë, mais elle pouvait être assez délétère. Prenons le cas de Curtis Mayfield qui va, lui, réaliser une bande-son extrêmement connue, Superfly. Et là, l'image est beaucoup plus ambiguë parce qu'on est en train de montrer au cinéma, à toute l'Amérique en réalité, que qu'est-ce que c'est le ghetto ? C'est des gens qui dealent, ce sont des voyous, etc. Et par la suite, le succès international du rap a été construit sur cette logique de l'encanaillement. C'est-à-dire que on s'inspire de l'Amérique noire pour ne voir en elle que ce qu'il y a de plus sulfureux et ce qui est un principe extrêmement raciste. C'est une façon extrêmement raciste de voir les choses. Or, Curtis Mayfield, lui, fait une bande-son extrêmement intéressante pour ce film Superfly et qui est en contradiction complète avec le propos du film. C'est-à-dire que les textes de ces chansons sont hostiles à la drogue et montrent les ravages de la drogue et à quel point c'est dangereux. Et à l'image, vous avez autre chose. La Blaxploitation est le dilemme, je dirais, de Curtis Mayfield, il est là. Comment est-ce que, en même temps, je peux continuer à conserver ma pertinence de gardien d'une société noire de progrès, en même temps que est montré et caricaturé l'Amérique noire de cette façon-là à l'écran. Don't ask no questions why.
Superfly, extrait de la bande originale du film du même nom paru en 1972. Lors de la réédition en 1997 de la bande-son, une interview de Curtis Mayfield a été ajoutée dans laquelle il évoquait cette musique de film qui resta dans les mémoires.
Superfly, not only through the script and his character, but being the first movie score introduced to me.
Le film Superfly ne m'a pas seulement captivé par son scénario et ses personnages. Il m'a fait entrer dans le monde du cinéma par le prisme de la composition. J'ai certes plusieurs cordes à mon arc, mais cette expérience représente ma première immersion dans l'univers des musiques de films. Concevoir la musique originale d'un long métrage suppose d'avoir lu le script et de s'être imprégné de l'histoire. Cela nourrit l'inspiration. Par contre, lorsque vous concoctez votre propre répertoire, c'est la société tout entière et ce que vous ressentez profondément qui guide votre imagination. C'est ce que j'appelle le scénario de la vie. Vous vous laissez porter par vos propres émotions et toutes celles que vous transmet votre entourage. Les chansons que j'ai écrites ne sont pas nécessairement l'expression de ma propre existence. Elles sont davantage le reflet d'une observation. Il suffit d'être attentif aux autres pour trouver l'inspiration. Il faut toujours s'interroger sur ce fameux processus de création. Il faut s'écouter soi-même. J'espère avoir été une belle personne. Et si mes propos ont pu heurter les convictions de certains Américains, j'ai toujours fait en sorte que la mélodie de la musique parvienne à transmettre un message finalement bienveillant. Mes mots n'étaient tranchés que lorsque la situation l'imposait. La vie, elle-même, est faite de tous ces soubresauts.
Even when I had to hit you with a hard lyric, I knew how to be soft and hard, gentle, easy, and harsh when it was necessary. Such as the ways of life itself.
Sébastien Danchin, peut-on dire que la période la plus intéressante de la carrière de Curtis Mayfield sont les années 1970-1974 ?
Je trouve que c'est difficile de dire ça. Je trouve que c'est toujours réducteur d'essayer de faire un championnat olympique avec une médaille d'or, d'argent, etc. Parce que chez lui, il y a vraiment eu des périodes différentes. Il y a les années 60 avec les Impressions, avec énormément de textes et de chansons et d'enregistrements magnifiques pour lui et pour son groupe, mais aussi pour d'autres. Il a écrit, il a continué à écrire pour Jerry Butler, il a écrit pour Major Lang. C'est quelqu'un qui était consensuel, mais pas dans le sens opportuniste, mais vraiment ouvert aux autres. Ensuite, il y a la période que vous évoquez, qui est effectivement des enregistrements magnifiques, à la fois dans la construction musicale. Autant on reconnaît immédiatement la musique d'Isaac Hayes dans Shaft, avec cette wah-wah bien particulière, etc. Autant on reconnaît les effets sonores très différents et l'atmosphère sonore très différente de Curtis Mayfield dans ses compositions. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont marqué de leur empreinte l'évolution formelle de la musique. Il y a évidemment Stevie Wonder, il y a Isaac Hayes et il y a Curtis Mayfield. Il y en a probablement d'autres, mais enfin, ceux-là, je pense que c'est le trio de tête. Et donc, dans les années 70, c'est vrai que sa musique, il y a des textes magnifiques, il y a quelque chose qui se passe. Mais je dirais que la période suivante est extrêmement intéressante aussi, parce que la période suivante, c'est celle où il arrive à la maturité du compositeur de musique de film.
Personnellement, je me suis arrêté à l'album Sweet Exorcist 1974 et ce titre imparable, Power to the People.
Protect them and those
Power to the People, Curtis Mayfield en 1974. Sébastien Danchin, parlons maintenant de sa fin de vie. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé le 13 août 1990 à Flatbush, à Brooklyn ?
Eh bien, il faisait un concert d'été, comme il y en a dans des parcs ou dans des lieux ouverts aux États-Unis, comme ça se fait aussi chez nous. Mais bon, il faut dire qu'à New York, il fait bien chaud l'été. Donc on est en extérieur, on monte une scène, on monte des portiques. En haut des portiques, on met de l'éclairage, on met des haut-parleurs, etc. Et pendant qu'il fait sa balance, il y a des spots d'éclairage qui tombent, emportés par une rafale de vent. Il y a un début d'orage et des rafales extrêmement fortes. Un truc pas assez bien accroché qui tombe et qui lui tombe dessus. Et donc, il se retrouve paraplégique. Plus rien ne fonctionne, ni les mains, ni les jambes, etc. La tête totalement épargnée. Donc, ça veut dire qu'il a toute sa tête et son esprit. Il peut encore vaguement parler, très vaguement. Après, ce sont des années de rééducation. Et puis, ce sont des années aussi pour essayer de se faire appareiller de manière à ce que sa vie soit autre chose que le confinement dans une coquille. Et qu'en particulier au niveau artistique, il puisse continuer à écrire, à faire de la musique. Ce qu'il a fait avec un courage étonnant, il a voulu faire un dernier album. Il a mis plusieurs années à le réaliser. C'est un album qui était une forme de testament, évidemment, pour lui, qu'il a enregistré phrase à phrase et même mot à mot et note à note, tellement c'était compliqué. Enfin, ça a été un travail de bénédictin, une œuvre de patience incroyable. C'est un album très touchant, avec beaucoup de belles choses qui résument à la fois sa pensée, le regard qu'il porte sur la musique et son inquiétude sur l'avenir du monde. Je trouve que c'est quelque chose qui en ressort. C'est qu'on a l'impression de quelqu'un qui est inquiet pour la suite, qui sait que lui sera épargné, puisque n'ayant pas été épargné par la vie, il va disparaître et nous quitter. Mais on trouve une certaine inquiétude là-dedans, et c'est quelque chose qui est assez touchant, je dirais même bouleversant, parce que autant toute son œuvre des années 60, même du début 70, a été portée par une espérance très grande, autant la fin de sa vie, on a l'impression qu'on est à l'aube d'un siècle extrêmement dur et inquiétant, et je ne suis pas sûr qu'on puisse lui donner tort aujourd'hui en 2019.
Son dernier album s'appellera donc New World Order,
Le Nouvel Ordre du Monde,
paru en 1996. Curtis Mayfield nous quittera 3 ans plus tard, le 26 décembre 1999. Sébastien Danchin, à quelle famille d'artistes associez-vous Curtis Mayfield ? Moi, j'ai toujours pensé, en écoutant Curtis Mayfield, à Marvin Gaye, à Gil Scott Heron et à Terry Callier.
Eh ben, je trouve que c'est une bonne façon d'envisager les choses. Ça fait partie des poètes. Je pense que c'est la marque de fabrique de Terry Callier, évidemment. Marvin Gaye, c'est vrai que c'est une forme de poète, mais je dirais que c'est un petit peu différent des autres de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que Gil Scott Heron, Terry Callier et Curtis Mayfield, c'est de l'écriture extrêmement ciselée. C'est une poésie. Les 4 albums qui sont réunis dans le coffret, ça me paraît une bonne introduction, parce que c'est là où il est dans son autonomie la plus florissante. C'est pas forcément ses plus beaux textes, ce sont des très beaux textes, mais on trouvera des très beaux textes dans son travail avec les Impressions dans les années 60, on trouvera par la suite, moi j'aime beaucoup cette chanson qui s'appelle Homeless, dans les années 80, on trouve de très belles choses, mais là je crois que c'est un bon point de départ, et si on a envie, il y a tous les ingrédients pour être heureux.
En tout cas, en 1997, il espérait sincèrement laisser son empreinte sur le paysage musical du 21e siècle.
J'espère que l'on continuera à citer mon nom. Cela voudra dire que ma musique s'est transmise de génération en génération. Je le répète, les commentaires m'importent peu, Du moment que l'on parle de ma musique, je suis satisfait. Et puis, j'ai atteint nombre de mes buts. N'oubliez pas que je viens d'un quartier pauvre de Chicago, que j'ai quitté le lycée à l'âge de 15 ans et que je me suis retrouvé sur la route à faire de la musique alors que je n'étais qu'un adolescent. Malgré tous ces déboires, je me suis tout de même produit très jeune à l'Apollo de Harlem à New York. Puis je suis devenu producteur, j'ai écrit des musiques de films et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à travailler pour d'autres. Voir le sourire de ceux à qui j'ai offert un tube international me comble. Je répète souvent la chose suivante lorsque l'on m'interroge. Quel que soit votre domaine de prédilection dans la vie, ayez un esprit fort, soyez vous-même et ne lâchez rien pour concrétiser vos rêves.
Be yourself and just continue with the struggle of pushing and achieving your goals.
C'est sur ces mots très sages du regretté Curtis Mayfield que nous allons nous quitter. Merci mille fois Sébastien Danchin d'avoir évoqué avec tant de délicatesse l'épopée de votre ami Curtis Mayfield.
Merci à vous et écoutez Curtis Mayfield, c'est ce que je peux dire à tous ceux qui ne le connaissent pas encore ou pas encore assez.
Je rappelle que le coffret Keep On, Keepin' On, qui regroupe les quatre premiers albums solo de Curtis Mayfield, est disponible chez Warner et d'ailleurs... Je vous l'offre.
Oh, quelle chance. Merci. Merci beaucoup. Bon, bah, vous savez ce que je vais écouter ce soir.
Je me doute. Puisqu'on en est à vous recommander quelques disques parus récemment, je vous encourage à écouter l'album Live in London de Mavis Staples, immense chanteuse de gospel activiste de la première heure durant le mouvement des droits civiques et toujours très militante aujourd'hui. Elle fut l'amie de Curtis Mayfield. Elle fêtera ses 80 ans le 10 juillet prochain et sera de passage en Europe cet été. Nous ferons tout notre possible pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, comme le fit le public londonien l'année dernière.
To me, happy birthday, dear Mavis. Happy birthday to you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes, I tell you. I'm thankful and I'm grateful to make another year. Yes, indeed. I tell you, it just ain't no stopping me, is it?
Si ces quelques secondes festives vous ont donné envie de découvrir ce Live in London, l'album est disponible depuis le 8 février. La semaine prochaine, nous célébrerons le centenaire de Nat King Cole, né à Montgomery en Alabama le 17 mars 1919. Nous en profiterons pour écouter quelques extraits de l'Ultimate Nat King Cole, une compilation qui paraîtra dans quelques jours chez Capitol Records. Merci à Nathalie Laporte pour sa constance et sa rigueur irréprochable en régie finale. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.